Salut les marques et les smarks, bienvenue dans Catch-up numéro 16. Je suis Hank et je suis accompagné aujourd'hui de Ringside.
Salut tout le monde.
Nous sommes un duo de choc pour vous présenter cette nouvelle analyse de Monday Nitro, ou plutôt cette récap, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on va pas forcément avoir envie d'analyser ce Raw qui n'a pas été d'une très bonne facture. Donc c'est le Raw du 9 août, si je ne me trompe pas, 8 août plutôt, 8 août. Si Ringside, tu te souviens où c'était, parce que je n'ai pas du tout retenu.
J'ai pas l'info, je suis désolé.
Nous
C'était
n'avons
en
pas.
Californie.
C'était en Californie.
Californie.
Bon. Oui, on s'excuse aussi du retard de ce podcast, hein. Il sera publié un peu en retard par rapport à d'habitude. Bref, on va commencer avec l'arrivée de Enzo & Cass dans l'arène. Donc Enzo vient un peu raconter comment la semaine dernière il était à deux doigts de pécho Sasha Banks. Il y a Cass qui lui dit ouais, t'avais trop moyen en clair de la
de conclure
chose, hein, de conclure, voilà, exactement. Et donc à ce moment-là, on a bien sûr Chris Jericho qui arrive tout vêtu de son écharpe et de rien d'autre. Et donc voilà, il y a un échange assez classique, hein, comme la semaine dernière, où Jericho se fout de la gueule de Enzo. Il dit que Enzo Amore ne serait même pas à la WWE s'il n'y avait pas Cass, hein, et il traite même Cass de je sais plus, de serveuse ou de non de quelque chose comme ça, enfin bref, en clair, un peu
un ouais, peu bonne à tout faire un peu,
ouais, voilà, Amore c'est un peu le faire valoir, enfin c'est un peu la troisième roue du carrosse, même s'ils sont que deux, ou la quatrième plutôt, je ne sais plus, nous sommes fatigués aujourd'hui. Et donc tout ça pour dire, il dit que maintenant, enfin Jericho dit que maintenant, attention, parce que peut-être que Enzo Amore il a Big Cass pour l'aider, mais Jericho, il a désormais Kevin Owens. Kevin Owens, donc du coup, qui est là, qui vient se mettre à côté de Jericho, et Jericho qui lui demande à un moment you got my back, enfin tu vas me protéger, hein, t'es là pour me défendre,
tu surveilles mes arrières,
ouais, tu surveilles mes arrières. Et Owens qui répond pas pendant genre 30 secondes, et à la fin il insiste Jericho, et Owens il fait ouais, c'est bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a eu ensuite, donc du coup
il y a cette histoire de strabisme de Jericho qui lance un défi à Big Cass, et qui finalement Big Cass il est bien chaud pour lui répondre, et là Jericho il dit ouais, mais je te parlais pas à toi, je parlais à Enzo. Et Big Cass lui dit que bah tu t'es en train de me regarder directement dans les yeux quand t'as dit ça.
Ouais, voilà.
Et voilà, le défi est lancé à Enzo Amore pour un match Chris Jericho Enzo, quoi. En quelque
voilà.
Sorte.
Donc du coup, l'histoire en clair du segment, c'était que une fois de plus, Jericho est un gros lâche et choisit de taper le petit Enzo Amore, qui, il me semble, n'avait pas encore eu de match un contre un.
Je crois pas, parce que c'est Big Cass qui a fait un petit run solo, mais pas Enzo, je crois pas.
Donc voilà, premier match. Si on se trompe, hein, n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube ou sur l'article des Cahiers du Catch ou partout où vous pouvez nous trouver. Bref, Enzo Amore contre Chris Jericho, un match, je vais pas vraiment le détailler, hein, un match un peu assez brouillon. Il y a eu quelques spots un peu ratés d'Amore où il était, on sentait qu'il était un peu en décalage, il y avait des moments un peu de flottement, et puis il y a eu des interventions de Kevin Owens, donc du coup, et donc à un moment il y a Kevin Owens qui intervient, et Jericho qui case un code breaker sur Enzo Amore. Big Cass est pas content parce que voilà, ils sont à deux doigts de la victoire pour tricherie, et donc du coup il rentre dans le ring, disqualification. Chris Jericho gagne donc par DQ. Donc voilà. T'as pensé quoi de ce segment ringside, la promo, le match
Pour un opener, c'était plutôt bien foutu. Pour moi, voilà, Jericho, Owens, ça fait toujours rigoler. Enzo, il est toujours au micro, c'est toujours assez impressionnant. Par contre, après le match, Enzo, on voit quand même que c'est pas trop ça entre les cordes. Hein, ça fonctionne bien en tag team, mais pas vraiment en solo. Moi, ça m'a fait l'effet un peu de Jericho contre Fandango, c'est-à-dire que Jericho, il a fait le match tout seul. Et puis Enzo il suivait quoi, il faisait le mannequin d'entraînement, et puis Enzo quand il frappe il y a aucune puissance qui se dégage de ses coups, c'est vraiment il y a pas d'impact du tout, c'est voilà, il est vraiment très doué au micro, il peut faire illusion dans un match par équipe, mais faut pas qu'il se lance tout de suite dans une carrière solo parce que ça va pas faire des jolis matchs quoi. Mais sinon, bon, en termes d'opener de show, c'était bien foutu. Et puis, ouais, Kevin Owens, toujours la classe, même s'il n'est pas dans le match. Ouais. Voilà, c'est une petite touche en plus qui fait que, voilà, pour un opener, c'était plutôt cool.
Mmh. Oui, moi, ça m'a pas... Ça m'a pas marqué plus que ça. Je pensais pas qu'ils allaient faire un vrai angle Amore Sasha Banks. C'est-à-dire genre le rappeler la semaine d'après, je croyais que c'était juste une petite blague pour une semaine, apparemment c'est un truc qu'ils veulent poursuivre, hélas.
Ça faut pas trop qu'ils s'éternisent là-dessus non plus, hein.
Mais on verra que c'était un peu le thème de la soirée, les trucs un peu potaches grossiers.
C'est cru chez Benny là, pour cette semaine.
Donc juste après on a un petit segment backstage avec Mick Foley qui parle avec Stéphanie de Brock Lesnar, mais à ce moment-là Sasha Banks arrive, elle dit que à SummerSlam elle veut battre Charlotte, mais elle veut pas d'intervention de Dana Brooke, et donc du coup Mick Foley organise un Sasha Banks Dana Brooke dans la soirée pour si y a victoire de Sasha Banks, Dana Brooke est bannie du ringside, et s'il n'y a pas victoire, et bah rien ne change. C'est tout,
voilà.
Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a eu d'autre, on a eu aussi une petite séquence avec Puff Daddy et les les New Day. Donc Puff Daddy qui venait faire la promotion du prochain jeu vidéo WWE 2K17, si je ne me trompe pas. Donc du coup il fait la playlist. D'ailleurs apparemment la playlist était pas dégueu, hein. Il y avait Action Bronson, tout ça. Enfin bon, pour les gens qui connaissent un peu le hip-hop, elle a pas l'air dégueu. Mais tout ça pour dire que Puff Daddy fait une petite blague en disant est-ce que les couilles de Biggie vont bien. Donc voilà, on est en là c'est le warm up là.
Ça commence déjà à dériver vers des trucs un peu chelous.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Non, bah voilà, après il fera un petit check avec New Day, voilà, ils sont tous potes.
Ils mangent des céréales.
Voilà. Bon, on va pas forcément commenter ça. Seth Rollins aussi est passé par là. Il est venu faire une promo cette fois-ci tout seul. Hein. Ils ont écarté Finn Balor du ring pour cette semaine. Donc Rollins qui vient dire que la nouvelle ère est là et que il admet que il a appris quelque chose ces derniers temps. Et donc il rappelle que pour lui Finn Balor c'est un Seth Rollins wannabe, hein, c'est un une copie, une mauvaise copie, et il admet tout de même qu'il est athlétique, que c'est un bon combattant, etc. Mais n'empêche que voilà, il va le battre. Et à un moment, il s'attarde sur qu'est-ce que veut dire Finn Balor. Alors, il explique au public que ça veut dire genre le démon roi. Enfin bref, on commence à aller un peu dans le
mystique.
Voilà, dans le mystique. Pour les gens qui font du RPG, c'est ce qu'on pourrait appeler le lore. il rajoute aussi que n'empêche, Finn Balor, c'est le mec le plus irrespectueux qu'il a rencontré depuis qu'il est à WWE, et blablabla, et je vais te battre. Et
blablabla, beaucoup de blablabla.
Voilà, c'était. Donc, ouais, bah, à la limite, j'aimerais bien qu'on en parle de ça parce que c'était quand même. Je pense qu'il a tenu bien. Une petite dizaine de minutes.
Au moins, hein. En tout cas, ça paraissait une bonne demi-heure.
Et je trouve ça. Alors, je vais être. Comment ? Je vais être égoïste, je vais commencer par mon avis.
D'accord.
C'est la première fois en je sais pas combien de temps que Rollins pédale dans la semoule. Pédale dans la semoule. C'est pas lui qui est forcément écrit tous ces trucs. J'imagine quand même que Rollins, quand on l'entend faire une promo, il y a une bonne partie où c'est lui qui enrobe les choses, etc. Mais c'était terrible. Il y avait rien à raconter. En fait, toute la promo, c'était
le texte était pas bon. Hein.
Tout le texte était un petit peu comme si on se rendait compte qu'il y avait pas vraiment de matière dans cette rivalité. Finalement, le prétexte, c'est juste je pense être meilleur que toi. Même si t'as un nom qui veut dire telle et telle chose, je vais te battre. Je vais l'englober vite fait. On a eu aussi une vidéo pour le coup enregistrée bien à l'avance et avec beaucoup de montage de Finn Balor qui a parlé de un peu ça, les légendes irlandaises, les mythes, qu'est-ce que veut dire d'où vient Finn, d'où vient Balor, blablabla. C'était un truc ultra, enfin pour moi c'était un truc ultra kitsch, genre avec des trucs tirés par les cheveux, genre à la fin il fait c'est pour ça que je vais invoquer les pouvoirs de blablabla. Donc voilà, on a eu d'un côté une promo qui essayait d'être un peu terre à terre dans le ring et qui a fini avec petite allusion au nom, mais bon c'était à peu près correct. Et de l'autre côté on avait le truc ultra too much où genre je suis une légende et etc. Donc voilà, toi t'en as pensé quoi de tout ça?
Sur le truc de Finn Balor, je t'avoue que j'ai tourné la tête, j'ai pas trop suivi ce qu'il racontait, mais après du coup ça allait vite de se casser la gueule au micro. Finn Balor, hein, une fois qu'il est enregistré, ça fonctionne un petit peu mieux parce qu'on sait qu'il est quand même pas terrible au micro. C'est plus sur le charisme que ça joue et puis sur son intensité dans le ring. Pour le speech de Rollins, il n'avait rien à raconter, ça a duré des plombes. C'est un exercice difficile quand t'as pas quelqu'un en face pour. Il est meilleur en face à face quoi, Rollins. Quand il est face à quelqu'un, il a du répondant, tout de suite ça fonctionne mieux. Là c'était long et puis une bonne rivalité. Quand tu sors un speech comme ça, faut que ça se base quand même sur des vérités. Là, il y avait rien de concret à part de dire que Baylor était irrespectueux, mais ça se base sur rien du tout. Donc du coup, ça fonctionnait pas. Le public a lâché. J'étais quand même impressionné par Rollins qui a sorti un texte quand même super long. Je sais pas s'il avait mémorisé tout ça la journée ou s'ils ont un prompteur, mais je me suis dit là, c'est presque du théâtre, quoi. Mais c'était le texte était nul, c'était chiant. voilà, s'ils veulent plomber la rivalité, c'est comme ça qu'ils doivent s'y prendre, quoi. Mais c'était beaucoup trop long, quoi. Franchement, moi j'ai décroché, quoi, au bout d'un moment. Hein. C'était vraiment.
Moi, je trouve que vraiment ils ont gâché une chose qui aurait pu vraiment redonner, donner pile poil l'excitation qui manquait à cette rivalité, malgré le fait que bon. Tous les fans de NXT sont super contents de voir Balor, etc. Le premier Raw, le premier Raw de la nouvelle ère, donnait envie, parce que voilà, il a fait que combattre et que il y avait rien qui était en place, et justement on attendait comment mettre en place la rivalité. Et finalement, ils s'en sont arrêtés quasiment là, quoi. Tout ce qu'ils ont rajouté, c'est la légende, le démon,
etc. Ils introduisent le personnage du démon, quoi. Pour pas que les gens soient trop surpris, peut-être à SummerSlam, je sais pas.
Mais justement, pour moi, c'est complètement débile. Pourquoi vous gardez pas ça? Je veux dire, les fans, ils sont déjà au courant. Donc, ils peuvent déjà deviner. Enfin, je veux dire, ils vont pas se dire, Finn Balor va être à SummerSlam et il va être, genre, dans sa petite veste de rocker. À la con, on sait très bien qu'il va y avoir ça, mais les gens qui connaissent pas, vous leur laissez-leur la surprise.
C'est ça, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est gâcher le truc un petit peu, gâcher vraiment une surprise là qui pourrait.
Et on le voit le maquillage dans son montage, Balor. Enfin, je veux dire, et c'est quoi la surprise? C'est qu'il a des dreads en plus, quoi.
Et un bon maquilleur, non, mais c'est. Ouais, non, là-dessus. Après, il faut savoir qu'il y avait il y avait beaucoup d'absents, hein, dans le roster, parce qu'il y a une tournée en Australie. Donc, je suppose que Baylor, il doit en faire partie. Donc, du coup, ils ont dû se démerder sans. Mais bon, c'est effectivement, hein, ça gâche un truc qui aurait pu être une belle surprise pour les spectateurs d'Euro qui regardent pas NXT, hein, ça c'est sûr. Mais, je sais pas, ils ont peut-être peur de trop surprendre le public, et je sais pas. Mais après, bon, je pense que c'est rattrapable tout ça. Hein. C'est vraiment un accident de parcours. Hein.
Plus que la peur de surprendre, je pense surtout que ils veulent monter. Ils ont trop peur. Enfin, en même temps, c'est SummerSlam. Pourquoi ils ont peur? Parce que SummerSlam, c'est un petit peu le truc inévitable pour grosse partie du public catch, mais ils avaient peut-être juste peur s'ils veulent attirer les gens avant le pay-per-view pour qu'ils payent le network ou qu'ils prennent un mois gratuit ou machin, etc. Donc du coup ils ont vendu le truc, mais ils l'ont vendu ils l'ont quasiment donné, quoi, l'entrée de Balor. Alors qu'ils auraient pu, à la limite, je pense, donner des indices, mais ouais, ils ont fait les choses avec un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Ouais, c'est ça.
Et c'est aussi d'autres passages de ce Raw qui était aussi très très comment dirais-je. Je vais pas dire bourrin, mais un peu de l'écriture.
C'était lourd.
Voilà, c'était un peu lourd à digérer. En parlant de lourd à digérer, nous allons passer au Jobber's World. Le monde des jobbers. Et cette semaine, dans le monde des jobbers, en lourd à digérer, Braun Strowman. Braun Strowman contre Jarrell Nelson. Ne me demandez pas qui est ce type. On a l'interview classique de Byron Saxton. Donc le mec est complètement flippé, blablabla, Braun Strowman gagne. Titus O'Neil contre Darren Young, donc cette fois-ci c'est Darren Young qui gagne, avec exactement la même tricherie que Titus O'Neil la semaine dernière, c'est-à-dire le tirage de slip. Cesaro contre Sheamus. Dudley Boyz contre Neville et Sin Cara, c'est ça que je voulais choisir. Donc voilà, on a eu... une victoire finalement de mince, j'ai perdu mes notes.
Alors il va falloir que je m'en souvienne.
Oui, c'est de Neville.
Ça doit être Neville, là.
Oui, Neville Sin Cara, Neville qui gagne avec le Red Arrow. Ouais. Sur Devon. Donc voilà, c'était le Jobber's World de la semaine. Tout de suite, repassons aux matchs normaux. Nous avions donc du coup un Cesaro contre Sheamus, hein, une rivalité passionnante.
C'est ça. Encore une belle rivalité pour Cesaro.
Non, le match était assez bon parce que ça reste de grosses brutes qui voilà se sont échangés des punches et des broke kicks plutôt et donc ça s'est terminé avec un ref bump donc du coup il y a eu Sheamus qui a fait un roll up mais l'arbitre était donc du coup à terre. Sheamus va voir l'arbitre pour lui gueuler dessus et finalement Cesaro fait lui-même le roll-up parce que pourquoi pas terminer un match de grosse brute avec deux roll-up, hein,
voilà.
Pourquoi pas,
hein. Ça c'est original. Voilà. Non, c'était bon, le match en lui-même était bon. Après il y avait Cesaro, il avait gagné la semaine dernière, il avait droit à son title shot. Du coup on lui met une revanche contre Sheamus, pas très logique, mais bon, voilà, Sheamus il était énervé. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a déjà vu le match la semaine dernière, et puis le final là il était pourri comparé à celui de la semaine dernière, donc ça apporte pas grand chose, mais ça construit la rivalité entre les deux. Qui je pense ira jusqu'à SummerSlam, parce qu'il y a du temps d'antenne pour SummerSlam, donc je pense qu'ils arriveront à caser le match. Ce qui fait que ça sera le troisième Cesaro Sheamus qu'on aura vu dans le mois. Cesaro, il gagne un titre pour la ceinture quand il n'y a plus vraiment de ceinture dans le show. C'est toujours un peu pareil. Cesaro toujours populaire.
Ce qui est quand même sympathique, c'est que bon, après il précise pas le titre, mais on imaginait forcément l'US Championship parce que l'intercontinental est à SmackDown. Donc ce qui est sympathique quand même, c'est qu'il s'est fait griller au poteau par un Roman Reigns qui est arrivé juste comme ça dans la salle, genre j'ai besoin de cette rivalité, donnez-la moi et puis c'est tout.
Voilà. Un truc pour m'occuper. C'est pour ça que je disais que c'était, il y a pas vraiment de ceinture, puisque celle-là visiblement elle va être squattée par Roman Reigns, donc on sait bien que ça risque pas d'aboutir pour Cesaro. Je pensais qu'ils allaient garder le truc moi pour plus tard, peut-être qu'il reviendrait après SummerSlam pour faire valoir son spot pour un titre, et puis qu'il aurait demandé le titre universel, quoi.
Et pourquoi pas créer une mallette
Il se battrait en montant sur une échelle, c'est un truc de fou là, auquel je pense à seul coup.
Ouais. Non, mais tu sais, t'imagines, il crée un Money in the Bank pour chaque ceinture, le truc qui devient ultra compliqué à écrire. Mais parlons justement d'un moment d'humour et d'un moment de divertissement comme vous en croisez rarement, c'est-à-dire à la célébration du mariage de Rousseff et Lana.
Et voilà. Alors, voilà ce qui se passe quand on tweet alors qu'on lui a dit de plus tweeter. Et il se fait punir et il a droit à ce segment.
Mais il avait l'air d'apprécier. Bon, on va on va raconter ça.
C'est un bon acteur.
Alors, donc bien sûr, Rousseff et Lana arrivent sur scène. Il y a un énorme gâteau au milieu. Clin d'œil. voilà, ils disent qu'ils sont super contents, les Américains sont des cons, enfin bref, le classique. On a l'intervention de Roman Reigns qui vient avec son petit sourire de Roman Reigns face énervant. je disais la semaine dernière, j'espère pas qu'ils repartent là-dessus. Et ben merci la WWE. Donc du coup, Roman Reigns qui vient avec son petit sourire et dit j'aimerais porter un toast, je suis content pour vous, blablabla. Rousseff est pas content. Reigns dit si tu veux pas que je porte un toast pour votre union, au moins donne-moi un match pour l'US Championship. Parce que Roman Reigns, lui, il va pas voir les GM comme Cesaro, hein.
Non.
C'est pas un loser.
Il a pas besoin de mendier un match pour un shot. Non. Il s'impose.
Il arrive, voilà. Il boit du champagne gratos et il demande un title shot. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu à suite? Oui, Rusev donc du coup dit non. Et donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, Roman Reigns fait, il me semble, une espèce de blague, genre t'as pas de couilles, un truc du genre. Et donc, finalement, Rusev essaie de l'attaquer, puis je sais plus comment, mais bref, Lana finit dans le gâteau, quoi.
Voilà, c'est ça. Et on a ri, on a ri.
Ah, ça
ri.
Ah, ah là, là. Les tartes à la crème.
Arrête, rien de penser. Oh. Mais voilà, mais un grand moment encore, hein, d'euro.
Ah putain, mais heureusement que j'y escalais pas parce qu'il serait en train de nous défendre là.
Bah
il
oui,
en train de nous
génial,
défendre. Moi, bah, ouais, non, mais c'est sympathique. Moi, ça m'a fait marrer.
Aïe 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 aïe. Et puis c'était long. Oh là là. Et ça se termine donc du coup, bah, je sais plus, ils s'en vont et ça se termine là. C'est ça, hein.
Donc, ouais, non, et après, après, on a un backstage, donc avec Lana qui a encore du gâteau sur la figure, et Mick Foley qui passe par là, et puis qui dit que, voilà, à SummerSlam, et bah, tu défendras ton titre US contre Roman Reigns, parce que, voilà, je veux.
Voilà,
c'est juste ça. Avant on nous expliquait, ouais, alors Cesaro, le truc, c'est qu'il faut que tu gagnes un title shot, mais après, il faut que je vois si je peux te caser entre deux trucs.
Et là... Parce que t'as mal à l'épaule, alors on sait pas si on va trop parier sur toi. Là, la Reigns qui a loupé son test de dopage, mais c'est pas grave, vas-y.
Ouais, il vient juste de balancer, il vient juste de balancer enfin, j'allais dire une superstar, enfin, c'est une des stars du show, Lana, dans un gâteau. Bravo Roman Reigns, tu as gagné un match. Il suffisait de mettre Lana dans un gâteau, c'est tout.
C'est ça, voilà. Ah, voilà, un gâteau, Lana, un title shot. Bam. En tout cas, il y a un truc qui était bien fait, c'est qu'ils ont fait traîner le truc, ça a duré longtemps aussi, hein, parce que tous les segments ils duraient longtemps là, cette semaine. Mm-hmm. Si bien que les gens ils en avaient marre, ils devenaient fous, hein. Et là Roman Reigns arrive et du coup les gens sont contents de voir débarquer Roman Reigns, quoi. Je trouvais que c'était intelligent, le fait d'avoir alors c'était pénible, hein, mais du coup ça évite d'avoir Roman Reigns qui arrive et qui se fait huer. Il se fait huer un petit peu, mais beaucoup moins que d'habitude, quoi.
Ah bah, clairement.
On entend même des Roman
on a beau se moquer du segment, le seul moment, moi, que j'ai trouvé vaguement marrant, c'est quand il commençait à faire son toast et qu'il versait le champagne, etc. Bon, c'était marrant, mais bon, c'était une minute de marrant sur 10 minutes de segment.
Ouais.
Voilà. Bon, on est super content, hein, Roman Reigns, Rusev, hein, une feud, non mais j'étais vraiment content de cette feud au départ, et puis voilà, ils ont voulu ramener encore de la comédie potache à Raw alors qu'ils avaient arrêté depuis quelques mois.
Là c'était que ça cette semaine, hein. Que des que des blagues, que des trucs lourdingues.
Devait y en avoir un qui est rentré de congé maternité ou un truc comme ça là dans les
gars, j'ai plein de bonnes idées, vous allez voir. On va se marrer.
Je vais vous dire un
gâteau,
truc. J'ai ma femme, elle m'a sorti des idées là, de blagues. Sympa. Hein.
Ça va marcher, vous allez voir.
On va passer aux filles Sasha Banks contre Dana Brooke. C'est un peu pareil, hein, je vais pas vous raconter le match en entier, mais y a Charlotte qui essaie. Ah oui, oh là là, comme elle a botché. Charlotte était censée faire balancer une claque à Sasha Banks, mais finalement donne une claque à Dana Brooke. Le truc, c'est qu'elle fait des claques genre à 1 mètre de la figure, quoi, environ.
C'est ça.
Et donc finalement Sasha fait son attaque là avec les genoux sur le coin du ring là. Je crois que c'était au-dessus, en sautant sur Dana Brooke, et donc elle gagne sur un tombé. Dana Brooke est bannie du ringside à SummerSlam et, espérons-le, bannie de Raw pendant quelques temps.
On espère.
Okay.
On espère.
Est-ce que t'as le match
Bah, c'est un peu comme Jericho Enzo, c'est Sasha Banks qui fait le match tout seul, quoi. C'est un peu plus compliqué avec Dana Brooke. Et puis, voilà, truc classique, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Je pense.
D'accodac. Passons à un autre moment de franche rigolade. C'est le docteur Luke Gallows et le docteur Carl Anderson qui sont devant leur labo. Et puis ils disent nous avons analysé fait des analyses sur alors les deux espèces de boules qu'ils ont dans un dans un bocal qui ressemble à des œufs ou à des trucs comme ça, enfin bref. Et donc en fait ils sont en train d'analyser soi-disant les couilles de Biggie. Voilà, c'est très fin, hein. et donc ils déclarent que c'est un cas de ring post-it, hein, le maladie du ring post. Et donc c'est tout finalement.
C'est ça. mais on a ri. Alors on a ri.
Ce qui est un prétexte pour avoir un Kofi Kingston contre le Dr Gallows.
Voilà. Qu'on n'aura pas vraiment.
Ouais. donc il y a Xavier Woods et Carl Anderson en ringside. Donc Gallows gagne grâce à un flapjack, fireman's flapjack, je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les docteurs essaient de diagnostiquer Kofi, mais Xavier Woods arrive pour les repousser vers les coulisses. Donc voilà, le match a été très court, il me semble.
Très très court, hein. Ça c'est bizarre qu'ils aient fait aussi court. Un peu dommage, hein. J'aurais bien vu un peu plus, mais il fallait du temps d'antenne pour le mariage de Rousseff, donc voilà. Il y a des priorités, hein, dans un row. Et donc apparemment Biggie il est blessé, hein. Donc ça c'est dommage un peu. Mais
alors il est vraiment blessé.
Ben j'ai l'impression que, mais à mon avis il a dû se blesser à Battleground là quand il a fait son spear là à travers les cordes, là, il est tombé sur la tête. Je pense pas que tu sors indemne d'un truc comme ça, hein, parce que la semaine dernière il a catché mais vite fait. Et je pense pas qu'il soit blessé sur le truc du poteau, ça me paraît pas trop réaliste. Donc là, il est écarté des rings, hein, mais je pense que c'est plutôt, à mon avis, il a dû se faire une commotion ou un truc comme ça, mais bon, ils ont peut-être pas envie de le dire pour pas pourrir l'ambiance, quoi. Parce qu'ils ont déjà eu pas mal de problèmes ces derniers temps. Enfin, je vois ça comme ça, mais j'ai pas d'informations véridiques là-dessus, hein. C'est mon avis, mon simple avis.
D'accord. Mais il reste une seule émission pour arriver à vendre cette rivalité. Pour l'instant, c'est rien. On a l'impression qu'il y a eu plus de parlotte, enfin de blagues à droite à gauche que de matchs.
C'est toujours le problème de la division tag team Arrow, hein, c'est-à-dire que c'est le New Day. Alors là, en plus, il en manque un. Je sais pas si tu te souviens, c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines qu'ils ont fait leur petit clip là où ils montraient leur carrière au New Day. Il y avait rien dans le clip, il y avait aucun moment dont on se souvient. En vérité, les rivalités du New Day, il y en a aucune qui ressorte au final, hein, même s'ils ont le règne le plus long. Il y a pas vraiment de, je sais pas, moi j'ai aucune rivalité dont je me souviens en vérité, à part peut-être la dernière qu'ils ont eue. Mais ça prouve bien que c'est pas voilà, ça se base que sur le New Day, et puis voilà, quand ils essaient de construire une histoire, ça reste les blagues potaches du New Day, et puis c'est tout, quoi.
Le souci, c'est qu'on vend pas leurs adversaires, en fait.
C'est enfin, ça.
C'est juste New Day qui fait des promos, qui en général trouve une moquerie sur laquelle persister sur l'équipe en face. Voilà. L'équipe en face répond pas. Pendant un temps, on avait eu l'équipe de Hill, international, Sheamus,
Del Rio. Ah oui, il y avait ça, voilà.
Et tout ce qu'ils faisaient, c'est gueuler. Dès qu'ils se tapaient des insultes, etc., ils étaient en ringside et puis ils gueulaient. Et puis ils avaient jamais le droit au micro. Ou alors, quand ils étaient au micro, ils disaient vous êtes des minables, blablabla. Et puis ça durait 30 secondes. Donc voilà. Là, pour le coup. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, le truc inverse de ce que je voulais, moi. C'est-à-dire que je pensais qu'il y aurait une équipe qui rendrait le New Day sérieux, mais en fait, non. C'est Luke Gallows et Carl Anderson qui sont passés en mode comique pour s'adapter. Donc voilà, c'est quand même. Enfin, je comprends pas la cohérence entre un règne ultra long, du coup un truc qui a un gros enjeu, et le fait de tout prendre à la légère comme ça. Mais bon, ça fait rire des gens, et sûrement Giscal d'ailleurs.
C'est ça.
On va vanner Giscal pendant tout ce podcast.
C'était et pour toi.
En parlant de trucs drôles, on a eu.
C'était un peu triste là.
Bah ouais, on manquait de moments drôles. Alors, bien sûr, toute la soirée, il a fallu promouvoir ce nouveau dessin animé qui sûrement va plaire à tous les enfants.
Ah oui.
Scooby-Dooby-Doo. Avec la machine mystérieuse et sponsorisée par la WWE. Nous avons eu donc deux segments. Non, l'autre c'était SmackDown. Donc on a eu Golden Truth.
C'est ça.
Qui ont fait des bêtises avec Scooby-Doo. Je sais plus, sais plus ce que c'était.
Alors j'ai des infos là-dessus. il semblerait que c'était pas vraiment Scooby-Doo. C'était un mec dans un costume.
Ah.
Je suis pas sûr parce que ça avait l'air quand même d'être le vrai, mais moi j'ai vu des rumeurs sur internet qui disaient que c'était pas vraiment Scooby-Doo.
Je sais pas là.
À vérifier.
J'sais pas. Mais il me semble qu'il est pas blessé en ce moment, Scooby-Doo.
En tout cas, on a vu à SmackDown.
Il a eu la vie médicale. Normalement, il est able to compete.
D'accord. on le verra sûrement à SummerSlam du coup.
Scooby-Doo. En dark match. Donc, on a en main event, tout simplement, Mick Foley qui arrive au milieu du ring et qui appelle Monsieur Daniel Bryan pour une petite discussion. Donc voilà, il se vanne un peu. Foley a pris assez mal la remarque de Bryan sur le Universal Championship, hein. Daniel Bryan qui pendant Talking Smack, l'émission post SmackDown la semaine dernière, avait
c'est un peu une copie du supplément SmackDown, hein, cette émission-là. Hein, je voudrais pas dire, mais bon.
Bon, ils nous ont un peu tout pris, mais qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas d'avocat,
c'est
nous.
Ça.
Voilà, on a des petits moyens, petits budgets. Et finalement, pendant ce Talking Smack, Bryan, voilà, a balancé de la grosse vanne, voire, enfin, quelque chose d'assez finalement qui pouvait être pris au sérieux, parce que il disait, bon bah, ils ont créé leur ceinture à partir de rien, etc. Enfin, bref, Bryan dans Talking Smack, il fait un peu le rôle de l'ambassadeur des smart sur internet. Et donc voilà, petite discussion. Après quelques plaisanteries. Il y a Rousseff qui vient interrompre, hein, qui arrive ringside. On ne sait pas du tout pourquoi. En plus, il est déjà en habillé pour catcher. Et donc il dit il est le vrai champion et que voilà. C'est dégueulasse qu'on lui ait foutu un match pour le titre US à SummerSlam, blablabla. Et donc, on a l'arrivée à ce moment-là de Cesaro
qui revient, très dispo.
Qui, bien sûr, vient faire valoir le fait qu'il a le droit à un title shot. Donc Mick Foley dit « Ah ouais, bah attention, je fais quelque chose d'incroyable, j'organise un match pour la ceinture US tout de suite, parce qu'il me reste genre 20 minutes de show et j'ai vraiment rien à dire. » Et donc du coup on a ce super match pour la ceinture US.
C'est ça.
Et au bout de quelques minutes, Sheamus arrive, fait une interférence. Il y a donc du coup Rousseff qui réussit donc du coup grâce à cette interférence à placer un gros kick sur Cesaro et à gagner. Je suis désolé de pas avoir d'enthousiasme ni de détails dans cette description, mais mon Dieu, je pense que la fin de ce Raw était si on est un minimum fan de Cesaro, elle était super.
C'était la frustration
super
complète.
Super pénible.
Quel meilleur moment pour faire valoir son droit au titre qu'un soir où il a déjà catché contre Sheamus, quoi. Mec, il a déjà un match dans les pattes. Allez, je prends ma chance pour le titre maintenant. J'ai toutes mes chances. Il y a un mec qui m'attend backstage pour me casser la gueule, qui va sûrement intervenir, et il faut que je me farcisse Rousseff, qui doit être le mec le plus balèze du roster à l'heure actuelle. Il avait quand même peu de chances de s'en sortir, le pauvre.
Oui, puis aussi, quel bon moment pour choisir d'utiliser mon title shot, juste avant SummerSlam, ou bien entendu, non seulement tu sais que, enfin, je veux dire au niveau hors kayfabe, on sait qu'ils vont pas changer l'affiche de SummerSlam à une semaine plus tôt, mais aussi tout simplement, pourquoi pas prendre le titre alors que je vais, enfin, pour affronter Roman Reigns dans une semaine.
C'est ça.
C'est quand même pas très stratège. Cesaro commence à avoir un peu le QI de Becky Lynch en mode en kayfabe. voilà, si t'as d'autres choses à dire là-dessus, parce que moi je...
Ouais, j'avais vraiment l'impression que le main event, il était détaché du show précédent, quoi, parce que t'as Rousseff qui arrive, l'air de rien, frais et dispo, en tenue de combat, Cesaro qui revient alors qu'il a eu un match avant, bon après un peu plus tard, t'as Reigns qui revient en toute fin de show, mais vraiment en mode badass du coup. Il est pas venu là pour rigoler. Donc, j'avais l'impression que c'était un main event qui avait aucun rapport avec le show précédent, enfin le show qu'on venait de regarder.
Ouais, ce que j'ai pas dit que du coup à la fin Reigns arrive et m'inspire à Rousseff.
Ouais.
Histoire de bien effacer Cesaro,
voilà,
de toute cette
Cesaro,
histoire.
Voilà. tu retournes voilà la semaine prochaine, t'affronteras Darren Young ou je ne sais qui, Titus O'Neil, pourquoi pas. Ou Sheamus, hein, pourquoi pas, pour une quatrième fois. Et voilà, bon après le match il était pas dégueulasse, mais voilà, c'était vain. Ça ne servait à rien au final. Et puis voilà, le title shot de Cesaro, ben c'est fini. Donc voilà, effectivement, frustrant si on est fan de Cesaro. Après, ça relevait un petit peu le niveau du show, moi je trouve. J'ai bien aimé le final quand Rousseff s'est mangé le spear. J'aime bien les spears de Roman Reigns, moi. Donc,
ah oui, non, mais ça, c'est le truc qui fait le mieux. Mais je sais pas. En fait, j'aurais bien aimé. Je disais que la fin était pourrie, mais en fait, la séquence avec le spear, j'aurais bien aimé, mais après autre chose, quoi. Pas après une défaite de Cesaro, qui est vraiment là. On a l'impression que c'est comme si le title shot de Cesaro, c'était une petite boulette de papier qui traîne sur un bureau, et que on la balance dans une. Elle fait, ah, j'ai oublié la boulette de papier, je la balance dans la poubelle. Tu vois, c'était un peu ça, genre, ah oui, t'as un title shot, Cesaro, bah vas-y, fais un match et perds tout de suite, là. Tu nous emmerdes, en fait.
Ça fait chier ton truc là, tu vois pas qu'on n'a pas le temps. Tu sais qu'il y a SummerSlam qui arrive, mec, on n'est pas là pour parler catch, hein, c'est bon. Mais hein, c'est bazardé en deux semaines. Voilà, c'est pas encore gagné pour Cesaro, hein. Tant pis. Hein. Voilà.
C'est usant. On va passer. Je n'ai pas de questions à la con cette semaine. À part pourquoi.
Pourquoi général.
Non mais vraiment, il y a. C'était. Non, alors on va passer aux notes. Donc du coup avec le coup de cœur, le coup de gueule.
Le mot de la fin, comme on dit.
Le mot de la fin, exactement. Merci de me rappeler le nom de ce segment. Donc, Ringside, vas-y, le mot de la fin.
Le mot de la fin. Alors, les tops. Moi, je vais mettre le spear de Roman Reigns à la fin. Histoire de finir sur une belle image. Le flop, alors, le truc le plus pourri, je vais mettre le mariage de Rousseff. Non, le segment de Rollins. Voilà, ça c'était vraiment ni fait ni à faire. Et puis la note, je vais mettre un bon 1. Voilà,
Pour une fois, je ne dirais pas que tu es sévère.
1.
Alors, moi, j'essaie de trouver mon meilleur moment là,
pas facile, hein?
mon moins pire moment. Ça serait l'annonce de la playlist de WWE.
Je t'ai dit.
Non, allez, un vrai segment. Vrai.
Oh, l'opener est pas mauvais. Je peux peut-être mettre l'opener. Jericho contre.
Jericho, ouais, voilà, Jericho. Jericho, moi je kiffe toujours Jericho. Enfin, je dis toujours. Il y a peut-être un an de ça, j'aurais pas forcément dit la même chose hein, quand il était en rivalité avec avec
voilà.
Corbin ou enfin bref. Non, c'était peut-être il y a moins d'un an. Enfin bref. Donc Jericho, voilà, toujours efficace, toujours plaisant à écouter. Et le coup de gueule, c'est le package de Balor, l'histoire de la légende, les mythes irlandais, tout ça.
Eh ben, ils s'en tirent bien avec leur gâteau pourri, alors. Hein. Ils sont même pas dans le flop.
Qui ça?
Avec leur gâteau pourri, là, leur histoire de l'ana dans le gâteau. Ça aurait pu finir dans un de nos deux flops, mais non.
Ah ouais, ouais. Bah,
ils s'en tirent bien. Ils s'en tirent bien.
Il y a de la concurrence en fait hein, pour
ouais, c'est ça,
le coup de gueule. J'aurais aussi mis Seth Rollins, j'aurais aussi mis le, je sais pas le gâteau. Non, pas forcément le gâteau parce que je pense que Gallows et Anderson avec leur truc de des couilles dans le bocal là.
Hein. Ouais.
Bon bref. Et puis ma note, non, je serais pas plus bas que toi. Je pense que je vais faire un.
Allez.
Ouais,
un.
Je vais faire un
aussi.
Un.
Un.
Ouais. Donc voilà, vous avez vu, c'est peut-être un catch-up un peu plus court que d'habitude. On essaie de ne pas rendre notre show plus pénible que l'émission de cette semaine de Raw. Donc voilà, on espère quand même que vous vous êtes marrés avec nous. J'étais donc accompagné une nouvelle fois de Ringside. Merci Ringside d'être venu.
Merci à toi.
Et vous pouvez nous écouter bien sûr sur Mixcloud, Podcloud, YouTube, iTunes, partout around the world. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de participer sur le forum des Cahiers du Catch ou dans les commentaires de l'article des Cahiers du Catch. Voilà, la promo est faite. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et à très bientôt.
Ciao.